La conquête du pain.
Partie 14. Consommation et production.
Chapitre 1. Envisageant la société et son organisation politique à un tout autre point de vue que les écoles autoritaires, puisque nous partons de l'individu libre pour arriver à une société libre, au lieu de commencer par l'État pour descendre jusqu'à l'individu, nous suivons la même méthode pour les questions économiques. Nous étudions les besoins de l'individu et les moyens auxquels il a recours pour les satisfaire, avant de discuter la production, l'échange, l'impôt, le gouvernement, etc. De prime abord, la différence peut sembler minime. Mais au fait, elle bouleverse toutes les notions de l'économie politique officielle. Ouvrez n'importe quel ouvrage d'un économiste. Il débute par la production, l'analyse des moyens employés aujourd'hui pour créer la richesse, la division du travail, la manufacture, l'œuvre de la machine, l'accumulation du capital. Depuis Adam Smith jusqu'à Marx, tous ont procédé de cette façon. Dans la deuxième ou la troisième partie de son ouvrage seulement, il traitera de la consommation, c'est-à-dire de la satisfaction des besoins de l'individu. Et encore, se bornera-t-il à expliquer comment les richesses se répartiront entre ceux qui s'en disputent la possession. On dira peut-être que c'est logique, qu'avant de satisfaire des besoins, il faut créer ce qui peut les satisfaire, qu'il faut produire pour consommer. Mais avant de produire quoi que ce soit, ne faut-il pas en sentir le besoin? N'est-ce pas la nécessité qui d'abord pousse à l'homme à chasser, à élever le bétail, à cultiver le sol, à faire des ustensiles et, plus tard encore, à inventer et faire des machines? N'est-ce pas aussi l'étude des besoins qui devrait gouverner la production? Il serait donc pour le moins tout aussi logique de commencer par là et de voir ensuite comment il faut s'y prendre pour subvenir à ses besoins par la production. C'est précisément ce que nous faisons. Mais dès que nous l'envisageons à ce point de vue, l'économie politique change totalement d'aspect. Elle cesse d'être une simple description des faits et devient une science, au même titre que la physiologie. On peut la définir comme l'étude des besoins de l'humanité et des moyens de les satisfaire avec la moindre perte possible des forces humaines. Son vrai nom serait physiologie de la société. Elle constitue une science parallèle à la physiologie des plantes ou des animaux qui, elle aussi, est l'étude des besoins de la plante ou de l'animal et des moyens les plus avantageux de les satisfaire. Dans la série des sciences sociologiques, l'économie des sociétés humaines vient prendre la place occupée dans la série des sciences biologiques par la physiologie des êtres organisés. Nous disons, voici des êtres humains réunis en société. Tous sentent le besoin d'habiter des maisons salubres. La cabane du sauvage ne les satisfait plus. Ils demandent un abri solide, plus ou moins confortable. Et il s'agit de savoir si, étant donné la productivité du travail humain, ils pourront avoir chacun sa maison et ce qui les empêcherait de l'avoir. Et nous voyons tout de suite que chaque famille en Europe pourrait parfaitement avoir une maison confortable, comme on en bâtit en Angleterre et en Belgique, ou à la cité Pullman, ou bien un appartement correspondant. Un certain nombre de journées de travail suffiraient pour procurer à une famille de 7 à 8 personnes une jolie maisonnette aérée, bien aménagée, et éclairé au gaz. Mais les 9/10 des Européens n'ont jamais possédé une maison salubre, parce que de tout temps, l'homme du peuple a dû travailler au jour le jour, presque continuellement, à satisfaire les besoins de ses gouvernants, et n'a jamais eu l'avance nécessaire, en temps et en argent, pour bâtir ou faire bâtir la maison de ses rêves. Et il n'aura pas de maison, et habitera un taudis, tant que les conditions actuelles n'auront pas changé. Nous procédons, on le voit, tout au contraire des économistes qui éternisent les prétendues lois de la production et, faisant le compte des maisons que l'on bâtit chaque année, démontrent par la statistique que les maisons nouvellement bâties, ne suffisant pas pour satisfaire toutes les demandes, les 9/10 des Européens doivent habiter des taudis. Passons à la nourriture. Après avoir énuméré les bienfaits de la division du travail, les économistes prétendent que cette division exige que les uns s'appliquent à l'agriculture et les autres à l'industrie manufacturière. Les agriculteurs produisant tant, les manufactures tant, l'échange se faisant de telle façon, ils analysent la vente, le bénéfice, le produit net ou la plus-value, le salaire, l'impôt, la banque, et ainsi de suite. Mais, après les avoir suivis jusque-là, nous ne sommes pas plus avancés, et si nous leur demandons « Comment se fait-il que tant de millions d'êtres humains manquent de pain, tandis que chaque famille pourrait cependant produire du blé pour nourrir 10, 20 et même 100 personnes par an ?» Ils nous répondent en recommençant la même antienne. Division du travail, salaire, plus-value, capital, etc., aboutissant à cette conclusion que la production est insuffisante pour satisfaire à tous les besoins. Conclusion qui, alors même qu'elle serait vraie, ne répond nullement à la question « L'homme peut-il ou ne peut-il pas, en travaillant, produire le pain qu'il lui faut ? Et s'il ne le peut, qu'est-ce qui l'en empêche ?» Voici 350 millions d'Européens. Il leur faut chaque année tant de pain, tant de viande, de vin, de lait, œufs et beurre. Il leur faut tant de maisons, tant de vêtements. C'est le minimum de leurs besoins. Peuvent-ils produire tout cela? S'ils le peuvent, leur restera-t-il du loisir pour se procurer le luxe, les objets d'art, de science et d'amusement? En un mot, tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie du strict nécessaire. Si la réponse est affirmative, qu'est-ce qui les empêche d'aller de l'avant? Qu'y a-t-il à faire pour aplanir les obstacles? Faut-il du temps? Qu'ils le prennent. Mais ne perdons pas de vue l'objectif de toute production, la satisfaction des besoins. Si les besoins les plus impérieux de l'homme reste sans satisfaction, que faut-il faire pour augmenter la productivité du travail? Mais n'y a-t-il pas d'autre cause? Ne serait-ce pas, entre autres, que la production, ayant perdu de vue les besoins de l'homme, a pris une direction absolument fausse et que l'organisation en est vicieuse? Et puisque nous le constatons en effet, cherchons le moyen de réorganiser la production de façon qu'elle réponde réellement à tous les besoins. Voilà la seule manière d'envisager les choses qui nous paraissent justes, la seule qui permettrait à l'économie politique de devenir une science, la science de la physiologie sociale. Il est évident que lorsque cette science traitera de la production, à l'œuvre actuellement chez les nations civilisées, dans la commune hindoue ou chez les sauvages, elle ne pourra guère exposer les faits autrement que les économistes d'aujourd'hui, comme un simple chapitre descriptif, analogue au chapitre descriptif de la zoologie ou de la botanique. Mais remarquons que, si ce chapitre était fait au point de vue de l'économie des forces dans la satisfaction des besoins, il y gagnerait en netteté, aussi bien qu'en valeur scientifique. Il prouverait, jusqu'à l'évidence, le gaspillage effrayant des forces humaines par le système actuel, et admettrait avec nous que tant qu'il durera, les besoins de l'humanité ne seront jamais satisfaits. Le point de vue, on le voit, serait entièrement changé. Derrière le métier qui tisse tant de mètres de toile, derrière la machine qui perce tant de plaques d'acier, et derrière le coffre-fort où s'engouffrent les dividendes, on verrait l'homme, l'artisan de la production, exclu le plus souvent du banquet qu'il a préparé pour d'autres. On comprendrait aussi que les prétendues lois de la valeur, de l'échange, etc., ne sont que l'expression souvent très fausse, le point de départ en étant faux, de faits tels qu'ils se passent en ce moment, mais qui pourraient se passer et se passeront tout différemment quand la production sera organisée de manière à subvenir à tous les besoins de la société. Chapitre 2. Il n'y a pas un seul principe de l'économie politique qui ne change totalement d'aspect si on se met à notre point de vue. Occupons-nous, par exemple, de la surproduction. Voilà un mot qui résonne chaque jour à nos oreilles. Y a-t-il, en effet, un seul économiste, académicien ou aspirant, qui n'ait soutenu des thèses prouvant que les crises économiques résultent de la surproduction, qu'à un moment donné, on produit plus de cotonnades, de draps, de montres qu'il n'en faut? N'a-t-on pas accusé de rapacité les capitalistes qui s'entêtent à produire au-delà de la consommation possible? Eh bien, pareil raisonnement se montre faux dès qu'on creuse la question. En effet, nommez-nous une marchandise parmi celles qui sont d'usage universel, dont on produise plus que besoin n'en serait. Examinez un à un tous les articles expédiés par les pays de grande exportation, et vous verrez que presque tous sont produits en quantité insuffisante pour les habitants même du pays qui les exporte. Ce n'est pas un excédent de blé que le paysan russe envoie en Europe. Les plus fortes récoltes de blé et de seigle dans la Russie d'Europe donnent juste ce qu'il faut pour la population. Et généralement, le paysan se prive lui-même du nécessaire quand il vend son blé ou son seigle pour payer l'impôt et la rente. Ce n'est pas un excédent de charbon que l'Angleterre envoie aux quatre coins du globe, puisqu'il ne lui reste, pour la consommation domestique intérieure, que 750 kg par an et par habitant, et que des millions d'Anglais se privent de feu en hiver ou ne l'entretiennent que juste assez pour faire bouillir quelques légumes. Au fait, nous ne parlons pas de la bimbloterie de luxe. Il n'y a dans le pays de la plus grande exportation, l'Angleterre, qu'une seule marchandise d'usage universel, la cotonnade, dont la production soit assez considérable pour dépasser peut-être les besoins. Et quand on pense au loch qui remplace le linge et les habits chez un bon tiers des habitants du Royaume-Uni, on est porté à se demander si les cotonnades exportées ne feraient pas, à peu de choses près, le compte des besoins réels de la population. Généralement, ce n'est pas un surplus que l'on exporte, dussent même les premières exportations avoir eu cette origine. la fable du cordonnier marchant pieds nus est vraie pour les nations, comme elle l'était jadis pour l'artisan. Ce que l'on exporte, c'est le nécessaire, et cela se fait ainsi parce que, avec leur salaire seul, les travailleurs ne peuvent pas acheter ce qu'ils ont produit en payant les rentes, les bénéfices, l'intérêt du capitaliste et du banquier. Non seulement le besoin toujours croissant de bien-être reste sans satisfaction, mais le strict nécessaire manque aussi trop souvent. La surproduction n'existe donc pas, du moins dans cette acception, et n'est qu'un mot inventé par les théoriciens de l'économie politique. Tous les économistes nous disent que s'il y a une loi économique bien établie, c'est celle-ci. L'homme produit plus qu'il ne consomme. Après avoir vécu des produits de son travail, il lui reste toujours un excédent. Une famille de cultivateurs produit de quoi nourrir plusieurs familles, et ainsi de suite. Pour nous, cette phrase, si fréquemment répétée, est vide de sens. Si elle devait signifier que chaque génération laisse quelque chose aux générations futures, ce serait exact. En effet, un cultivateur plante un arbre qui vivra 30 ou 40 ans, un siècle, et dont ses petits-fils cueilleront encore les fruits. S'il a défriché un hectare de sol vierge, l'héritage des générations à venir s'est accru d'autant. La route, le pont, le canal, la maison et ses meubles sont autant de richesses léguées aux générations suivantes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On nous dit que le cultivateur produit plus de blé qu'il n'en consomme. On pourrait dire plutôt que l'État, lui ayant toujours enlevé une bonne partie de ses produits sous forme d'impôt, le prêtre sous forme de dîme et le propriétaire sous forme de rente, il s'est créé toute une classe d'hommes qui, autrefois, consommaient ce qu'ils produisaient, sauf la part laissée pour l'imprévu ou les dépenses faites sous forme d'arbres, de routes, etc., mais qui, aujourd'hui, sont forcés de se nourrir de châtaignes ou de maïs, de boire de la piquette, le reste leur étant pris par l'État, le propriétaire, le prêtre et l'usurier. Nous préférons dire « Le cultivateur consomme moins qu'il ne produit parce qu'on l'oblige à coucher sur la paille et à vendre la plume, à se contenter de piquette et à vendre le vin, à manger le seigle et à vendre le froment. » Remarquons aussi qu'en prenant pour point de départ les besoins de l'individu, on arrive nécessairement au communisme, comme organisation permettant de satisfaire tous ses besoins de la façon la plus complète et la plus économique. Tandis qu'en partant de la production actuelle et en visant seulement le bénéfice ou la plus-value, mais sans se demander si la production répond à la satisfaction des besoins, on arrive nécessairement au capitalisme ou tout au plus au collectivisme, l'un et l'autre n'étant que des formes diverses de salariat. En effet, quand on considère les besoins de l'individu et de la société et les moyens auxquels l'homme a eu recours pour les satisfaire, durant ces diverses phases de développement, on reste convaincu de la nécessité de solidariser les efforts au lieu de les abandonner au hasard de la production actuelle. On comprend que l'appropriation par quelques-uns de toutes les richesses non consommées et se transmettant d'une génération à l'autre n'est pas dans l'intérêt général. On constate que de cette manière, les besoins des trois quarts de la société risquent de ne pas être satisfaits et que la dépense excessive de force humaine n'en est que plus inutile et plus criminel. on comprend enfin que l'emploi le plus avantageux de tous les produits est celui qui satisfait les besoins les plus pressants et que la valeur d'utilité ne dépend pas d'un simple caprice, ainsi qu'on l'a souvent affirmé, mais de la satisfaction qu'elle apporte à des besoins réels. Le communisme, c'est-à-dire une vue synthétique de la consommation, de la production et de l'échange, et une organisation qui réponde à cette vue synthétique, devient ainsi la conséquence logique de cette compréhension des choses, la seule, à notre avis, qui soit réellement scientifique. Une société qui satisfera les besoins de tous et qui saura organiser la production devra en outre faire table rase de certains préjugés concernant l'industrie et en premier lieu de la théorie tant prônée par les économistes sous le nom de division du travail, que nous allons aborder dans le chapitre suivant.